Dès que je fais.
Donc les filles, vous m'entendez là?
Attention!
C'est parti. Alors, c'est à toi. Et après, on va commencer.
Vous êtes attentifs parce que je vais vous faire des signes.
Rapproche-toi bien du micro.
Tu fais le silence avant.
Et tu mets un costume. Tu mets le costume de journaliste.
Trop bien.
Je vais monter les micros de tout le monde.
Je pense que ça enregistre.
Allez, c'est parti.
Le Sonolab. L'atelier des sons. Projet sonore en pleine ébullition, tout droit sorti de notre laboratoire de création sonore. Émission, fiction, reportage, micro-trottoir, poésie. Des projets avec des établissements sociaux, médico-sociaux, scolaires, culturels, associatifs, etc.
Moi c'est Dolovan et vous écoutez Radio Métier, une émission réalisée en 4 jours dans le cadre d'un atelier proposé par Jet FM en association avec la Maison de l'Emploi.
Martin,
Gania,
Inès,
Bertrand,
Sacha,
Laurent,
Charlie
et moi-même vous ont concocté une édition aux petits oignons. Ils vont vous parler des métiers de la poésie, de la cuisine solidaire et de l'accompagnement de personnes seules, mais aussi de comment se lance-t-on en tant qu'auto-entrepreneur, excusez-moi. Tout cela entrecoupé d'une interview musicale et poétique. Nous finirons sur une discussion autour de l'objectivité dans le journalisme. Radio Métier, c'est maintenant.
Pour commencer, lors d'une interview qui va suivre, nous avons eu la chance de rencontrer Magali Brasil, la directrice de la Maison de la Poésie de Nantes. Une interview de Martin, Sacha et Bertrand.
Bonjour Magali Brasil, vous êtes la directrice de la Maison de la Poésie. Pouvez-vous nous dire comment et pourquoi est née la Maison de la Poésie ?
Alors, la Maison de la Poésie est née il y a 31 ans déjà, en 1986. Donc, c'est une jeune dame, hein, 30 ans, mais qui a quand même plusieurs années, donc plusieurs ères de programmation, de direction. Et donc, elle est née en 86 à l'initiative d'un collectif de poètes nantais et d'éditeurs. Qui déjà avait souhaité développer une programmation invitant des auteurs pour des lectures et des rencontres publiques. Et à cette époque-là, c'était juste ça. Voilà.
Est-ce que vous pouvez nous dire quelles activités propose cette maison ?
Alors aujourd'hui, le projet s'est largement développé. Donc on propose toujours une programmation qui articule un temps fort, un festival de 4 jours mi-octobre qui s'appelle Midi Minu Poésie, qui se déroule dans différents lieux artistiques de Nantes, mais également dans l'espace public ou des lieux, parfois des commerces. C'est réinventé chaque année. Et le principe, c'est d'inviter évidemment essentiellement des poètes, mais aussi des artistes pour des rencontres entre les arts. Et après le festival, de novembre à juin, il y a une programmation régulière au lieu unique qu'on appelle Poèmes en cavale, et qui invite également des auteurs pour des lectures. Donc voilà pour la programmation. Il y a une autre activité qui compte autant pour nous, qui est ce qu'on appelle aujourd'hui l'action culturelle ou d'éducation artistique, et qui consiste à travailler, à concevoir des projets de différents formats, à destination des scolaires, des étudiants, mais également d'autres types de publics. Donc on travaille parfois dans les quartiers pour des projets participatifs, en prison, en milieu rural, au niveau du département, voilà. Et puis, très important, on a également développé depuis ces 30 ans un fonds, un pôle ressources, donc, qui comprend une bibliothèque qui dispose aujourd'hui de 13 000 titres que de poésie contemporaine, donc très spécialisée, et puis des petites expos, des documents sonores, des valises thématiques, voilà.
Pour parler un peu plus de votre poste à vous, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste votre travail à la Maison de la Poésie ?
Alors aujourd'hui, on est une équipe de 3 salariés temps plein en CDI. Moi, je suis directrice. Donc dans ce travail, il y a d'une part la direction artistique, à savoir de concevoir la programmation artistique, mais également la direction, comme on dit, générale, qui est donc plus de l'ordre de la gestion, à savoir faire tourner la boutique et travailler à réaliser des subventions, à échanger avec nos partenaires qui nous soutiennent, donc les collectivités, il y en a plusieurs pour nous, ainsi que l'État. et puis aussi de choisir nos partenaires et tout le réseau de travail avec, parce qu'on travaille vraiment, c'est ce qu'on affirme vraiment, parce que c'est riche à tout point de vue, avec plein de partenaires, aussi bien au niveau local, à Nantes, en région, qu'au niveau national. Et puis j'ai deux salariés, je ne sais pas si j'explique leur mission un petit peu.
Oui, je veux bien.
Donc il y a Anaïk Béret qui est administratrice. Donc comptabilité et tout ce qui a trait à l'administration, donc des conventions, factures, etc. Et Johan Durand qui est chargé de communication et qui accompagne également les actions de médiation en direction des scolaires par exemple. Et puis souvent on accueille, c'est le cas, enfin il y a Camille en ce moment qui termine sa mission aujourd'hui, des jeunes en service civique pour des missions de 8 mois et qui a pour rôle d'aider au festival, notamment sur la coordination des bénévoles puisqu'on a 50 bénévoles lors du festival, mais également d'aider à la bibliothèque, donc d'accueillir les lecteurs, d'enregistrer les livres.
La définition du poète et de la poésie.
Alors ça, c'est une bonne question, sachant qu'on ne peut pas y répondre. C'est-à-dire que je répondrai par dire que chaque poète a sa propre définition, voire plusieurs de la poésie. Donc la poésie est indéfinissable. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est l'art du langage, hein, voilà, qui est l'art d'inventer sa propre langue. Voilà, moi aussi de bousculer un petit peu le réel à travers la langue qu'on invente et la façon. C'est un matériau qui convoque aussi bien l'émotion que la pensée à travers le langage. Et le poète, c'est le fabricant et non pas souvent on pense que le poète, il y a des inspirations qui lui tombent dessus comme par miracle, mais c'est finalement un artisan du langage et c'est quelqu'un qui travaille le langage ardemment, souvent.
Oui. Est-ce que vous pensez qu'on peut vivre de la poésie par l'écriture ou par tous les autres métiers ?
Alors, en poésie, parmi tout le milieu du livre, hein, et donc les genres littéraires, c'est en France, c'est pas le cas dans tous les pays, un genre qui se vend le plus mal. Avec le théâtre, ils sont à peu près au même pourcentage de vente et donc très peu représentés dans les librairies ou dans les bibliothèques, et notamment dans les librairies pour l'aspect économique, là, pour le coup. Donc c'est extrêmement difficile, voire... Alors, c'est impossible pour un poète de ne vivre que de la vente de ses livres. Il faut savoir qu'un tirage moyen... Pour un livre de poèmes, donc en nombre d'exemplaires, c'est entre 500 et 1000. Et qu'en plus, comme ça se vend mal, voilà, il y a très peu de revenus pour l'auteur directement de ses ventes. Par ailleurs, même les éditeurs qui font un contrat d'édition et qui doivent payer l'auteur. En poésie, il y a une économie très fragile pour tous ces éditeurs. Il y a beaucoup d'éditeurs indépendants qui font un travail de grande qualité. C'est là encore un travail de passionné qui réalise qui font les objets livres avec un soin vraiment particulier, mais qui souvent équilibrent juste les dépenses par rapport aux recettes. Et donc, on fait ça aussi par militantisme et a peu les moyens de donner beaucoup d'argent en termes de pourcentage sur la vente de livres à un auteur. Donc ça, faut savoir qu'on peut pas vivre en tant que poète que de ces ventes de livres. En revanche, on peut vivre de son travail de poésie avec ce que vous évoquez, à savoir les activités annexes. Et il y a beaucoup de poètes qui s'y risquent.
Très bien.
On vous remercie.
Ben, merci à vous.
Merci d'avoir reçu.
En complément de cette interview, nous vous indiquons que la Maison de la Poésie organise des événements à peu près tous les 15 jours en dehors des vacances scolaires.
Prochainement, il y aura deux rencontres avec l'auteur Elisabeth Jacquet, le dimanche 8 mars à 15h et le mercredi 11 mars à 19h30, toutes les deux au lieu unique. Il y aura également une soirée qui s'intitule « À suivre » qui consiste à inviter de jeunes auteurs, des voix émergentes. Il s'agira de Xavier Maquet et Aldo Kureshi le mercredi 18 mars à 19h30 au lieu unique.
Merci Bertrand, Sacha et Martin. Nous allons à présent discuter quelques minutes sur le thème de la solitude et échanger nos opinions concernant l'écoute active. Juste avant cela, nous allons écouter un court extrait d'un interview en compagnie de l'association nationale ASTRAY de lutte contre la solitude.
Parlez-moi un peu de votre association, s'il vous plaît.
Alors, l'association Astrée est une association qui est en France depuis 30 ans. Il y a une quinzaine partout dans les villes, hein, du nord au sud. Et elle est installée à Nantes depuis 2004 à peu près. 2014, pardon. Donc, cette association est donc reconnue d'utilité publique.
Qui vient vers vous ?
Alors, qui vient vers nous, c'est un peu tout le style de personnes. On dit que la moyenne, ce sont des femmes d'une cinquantaine d'années hein, qui ressortent. Mais on a des jeunes, on a des moins jeunes, on a des hommes, on a des personnes qui sont en situation de chômage, des situations de rupture familiale, des divorces compliqués, des séparations. On a des personnes qui viennent d'avoir un veuvage. On a des personnes qui sont complètement seules aussi par la vieillesse, qui ne voient plus personne, qui n'ont plus le réseau familial ni amical, et qui se retrouvent chez eux sans vraiment beaucoup sortir. Donc là, ces personnes-là souffrent vraiment de solitude. Et il y a des personnes, si on n'était pas là, elles ne voient personne de la semaine. Donc nous, on arrive dans un temps donné, une heure et demie par semaine, et ça fait partie de leur routine, quoi. Elles savent que, il y a Astrée qui va venir une heure et demie, donc ça donne aussi un but à leur semaine.
Avez-vous des activités ?
En fin de compte, nous restons que dans l'écoute. Nous ne proposons aucune activité, ni aucun accompagnement administratif, ni sorties, choses comme ça. On est juste pour écouter une heure et demie par semaine. On a un bénévole qui accompagne la personne et qui l'écoute simplement.
Avez-vous des conseils pour les personnes seules ?
Justement, l'idée, ce n'est pas de donner de conseils. On ne donne aucun conseil. La personne, elle recherche elle-même en elle ses propres ressources. Quand on est avec des amis qui vont mal, par exemple, on dit, mais on le fait sans faire attention. Ah ben, à ta place, je ferais ci ou fais ça. Ou t'inquiète pas, c'est pas grave. Eh ben, justement, il faut pas dire ça. Parce que la personne, elle a le sentiment de ne pas être écoutée ou de mal être écoutée. Et là, quand on écoute vraiment la personne, elle sait, elle est captive de notre attention, en fait, on compte aussi, et elle trouve elle-même ses ressources. C'est une méthode qui s'appelle l'écoute active. C'est une méthode qui vient d'un psychologue canadien, Rogers. Et donc, on est là dans l'écoute attentive. Et il y a des personnes qui ont du mal à comprendre en disant mais comment on peut aider quelqu'un juste en l'écoutant ici. Et ça, après ça, tous les bénévoles ont une formation de 2 jours avant de pouvoir être mis en relation avec une personne accompagnée. Et après tous les mois, il y a un psychologue qui vient faire une analyse de la pratique. Les bénévoles se retrouvent là et posent des questions sur ce qu'elles vivent avec la personne qu'elles accompagnent, s'il y a des problèmes, parce qu'on peut avoir des personnes qui sont suicidaires, un tas de questions qui peuvent se produire.
Astrée, c'est une association qui s'occupe des personnes seules par l'écoute individuelle. Qu'en pensez-vous ?
J'en pense que c'est une approche assez distante, un peu froide, qui manque un peu d'humanité.
Moi, je pense qu'une méthode n'est pas universelle et que donc elle n'est pas applicable à tous de la même manière. Je suis d'accord pour dire que dans l'écoute, parfois, il faut exclure ses propres idées préconçue ou sa propre interprétation des choses. Mais je ne suis pas d'accord pour ne pas accompagner la personne et la laisser finalement dans sa solitude.
Je suis assez d'accord avec toi. En fait, cette idée d'un échange quasiment à sens unique, ça me gêne assez. Pour avoir fait moi-même des visites à domicile de personnes âgées isolées durant un service civique, je sais que l'échange peut être très, comment dire, réconfortant, très ludique. Par exemple, on amenait régulièrement des journaux et puis on discutait de l'actualité avec les personnes en question.
C'est la méthode d'Astrée est sûrement très intéressante. Elle convient peut-être pas à tout le monde. La méthode que Martin réalisait pouvait très bien fonctionner avec d'autres personnes. Et du coup, Gania, tu as un projet qui peut mélanger plusieurs méthodes et du coup, tu voulais nous en parler.
Oui, la solitude est une réelle souffrance pour les personnes seules. Moi, j'ai un projet pour faire une association, pour créer une association pour les personnes seules, pour les suivre, les orienter, les accompagner, pour faire beaucoup de choses avec eux. Un accueil chaleureux, les accompagner vraiment, chaque personne, et les comprendre, et les suivre, et les aider carrément.
Leur proposer des activités.
Oui, beaucoup d'activités, les suivre vraiment.
Tu parlais de coiffure, d'esthétique,
oui,
de cuisine.
Oui, coiffure, esthétique, cuisine, par beaucoup d'activités.
Et des sorties aussi.
Sorties, balades, théâtre, cinéma.
Et justement, parlant d'associations, que penses-tu, Gania, de l'association que tu as rencontrée avec moi ?
Moi, j'ai bien aimé l'association Goût des Autres, car c'est ce que je voulais, le partage, l'entente. Ils sont vraiment ensemble. Il y a une très bonne entente. Ils sont vraiment ensemble à aider tout le monde. J'ai vraiment aimé. Et c'est mon but. C'est convivial aussi.
Nous allons donc écouter mon petit reportage sur l'association Le Goût des Autres et ces femmes et bénévoles extraordinaires. Monsieur Charles Soussan, bonjour.
Bonjour.
Donc, est-ce que pour nos auditeurs, vous pourriez nous décrire l'association en quelques mots ?
En quelques mots, c'est difficile. Hein. L'association aujourd'hui existe depuis 10 ans. Elle est constituée de personnes étrangères qui ont été régularisées. Aujourd'hui, on a 6 CDI et une quinzaine de CDD, des personnes qui sont des hommes, des femmes, mais surtout des femmes, qui viennent préparer des plats de leur pays.
Donc à ce moment-là, pourquoi une association et pas une entreprise ?
Ah, pourquoi une association et pas une entreprise ? C'est une bonne question, ça. Parce que dans l'esprit de l'association permet plus tard de transformer cette structure en SCOP, c'est-à-dire une structure qui appartient aux salariés. Voilà pourquoi, alors qu'une entreprise, c'est plus un projet individuel, avec des salariés, il y a une hiérarchie. Là, c'est un projet collectif qui permet de prendre des décisions tous en commun.
Et vous évoquez le fait que c'était quand même principalement des femmes en cuisine. Que pensez-vous justement de cette présence majoritairement féminine ?
Alors c'est un pur hasard, mais c'est culturel. C'est parce que la cuisine, c'est traditionnellement réservé aux femmes, même si on le déplore. C'est vrai que dans les foyers d'où sont originaires toutes ces femmes-là, bien c'est elles qui tiennent les fourneaux. C'est encore comme ça. Dans le Maghreb, dans l'Europe de l'Est, c'est la femme. L'homme, il a d'autres tâches. Peut-être que ça va changer. C'est pour ça que ces familles obéissent à la culture de leur pays, c'est-à-dire que c'est elles surtout qui font la cuisine.
Comment vous pensez que la cuisine favorise l'intégration sociale de ces femmes-là ?
Alors d'abord, c'est un moyen assez facile, on va dire, de pouvoir échanger. Parce que lorsqu'on fait la cuisine, on n'a pas besoin de parler la langue, de maîtriser la langue, de connaître toutes les arcanes juridiques d'un pays pour pouvoir essayer de s'intégrer. Et puis il faut savoir que c'est un vecteur de solidarité, de partage, parce que la cuisine réunit les gens. Et la cuisine, c'est quelque chose qu'on goûte, qu'on aime, qui nourrit, bien entendu. Et donc, c'est ce vecteur d'échange entre les peuples.
Qui est un lien, en fait, qui est un lien social.
Ben, c'est un lien, c'est d'abord biologiquement nécessaire. Donc, avant d'être un lien, il faut se nourrir. Et quand on se nourrit, on ne va pas manger tout le temps la même chose. Donc, on fait appel à la diversité. Et comme on est dans un monde où tout circule, avec la mondialisation, C'est intéressant de pouvoir découvrir des plats venus d'ailleurs, des coutumes culturelles différentes. Et si on est un peu curieux, on a envie de goûter, de faire des essais, d'échanger, de partager.
D'où vous est venue cette idée ?
Voilà, ça c'est compliqué. L'idée c'est qu'on a aidé, il y a quelques années, on a aidé des familles migrantes à s'intégrer parce qu'elles étaient en des situations de grande précarité avec leur famille. Donc on a mené une action pour demander à ce que leur intégration soit possible, qu'elles puissent, que leurs enfants notamment puissent vivre dans de bonnes conditions, à l'abri, en toute sécurité, et qu'à la suite de cette aide, de cet accompagnement que l'on a accompli auprès d'elles, un certain nombre de familles ont été régularisées, et lorsqu'elles ont été régularisées, elles m'ont invité à partager leurs plats, leurs repas. Voilà, donc à partir de là, comme c'était des gens qui venaient d'un peu partout, aussi bien de Tchétchénie, de Syrie, d'Irak, d'Arménie, de Géorgie, d'Ukraine, eh bien, l'idée m'est venue de dire, ben tiens, maintenant qu'elles sont régularisées, on va essayer pour les aider à s'intégrer, de faire connaître les plats qu'elles préparent et de faire goûter les saveurs venues d'ailleurs.
Comment majoritairement ces femmes-là se sont ont connu votre association? Comment elles se sont investies, la plupart d'entre elles?
Alors d'abord parce que quand on les a aidées, dans un premier temps, on a créé un collectif de parents d'élèves pour pouvoir justement accompagner ces personnes-là qui étaient demandeuses d'asile, qui se retrouvaient quelquefois sans papier. Donc là, ça a permis, parce qu'on a créé un collectif et que tout de suite, rapidement on a eu des demandes de personnes qui voulaient qu'on les aide. Donc ça, c'est un premier point. Et puis ensuite, comme notre action a été connue, eh bien, les services sociaux, les assistantes sociales nous ont contactés pour nous demander si on pouvait donner du travail à un certain nombre de familles pour qu'elles puissent s'intégrer financièrement.
Très bien. Et puis on va finir sur une petite question assez simple. Quels sont les pays mis à l'honneur cette semaine au niveau des prestations que vous avez?
Alors là, vous me posez une colle parce que je fais les devis, mais j'en fais tellement que j'oublie. Mais enfin, on a là dans la cuisine actuellement, il y a une cuisinière ukrainienne, il y a une cuisinière albanaise, il y a Nogna qui vient d'arriver, qui est de Côte d'Ivoire. Donc voilà à peu près tous les pays qui sont pour l'instant. Mais il y en a d'autres qui vont arriver dans l'après-midi parce qu'on a des grosses prestations en cours. Et puis il y a les bénévoles qui arrivent parce que les bénévoles sont nécessaires pour faire fonctionner cette cuisine et apportent leur soutien à toutes ces cuisinières. Voilà.
Je vous remercie énormément pour votre temps et je vous remercie aussi pour l'action que vous faites pour ces femmes et pour la ville de Nantes.
Merci beaucoup. À bientôt.
Vous êtes toujours sur Jet FM 91.2. Merci encore au goût des autres pour leur accueil chaleureux et leur temps qui leur est bien précieux en ce moment. Si vous souffrez de solitude, de curiosité ou simplement que votre ventre gargouille, nous vous conseillons vivement, chères auditrices, chers auditeurs, d'aller à leur rencontre, de prendre part à l'aventure en tant que bénévole ou simplement de réserver un cours de cuisine afin de passer un moment riche en compagnie délicieuse. Je laisse à présent l'antenne à mes chers collègues Martin et Bertrand, qui vont délicatement vous caresser les oreilles et le cœur, le temps d'un interlude poétique.
Dans notre petit tour de la solitude en poésie, nous vous proposons des textes de notre cru, et d'autres par des auteurs plus connus. Pour commencer, un texte que j'ai écrit. Un soir, exténué, enfermé dans son corps, il se sent si lourd, si vulnérable. Il a tant besoin de sommeil, mais le sommeil le fuit, inaccessible comme une étoile qui nous attire. Son propre souffle, pénible, lui semble assourdissant dans l'obscurité qui l'entoure. Ça suffit. Il se lève pour aller se servir un café et s'installer dans son fauteuil préféré. Du lit au fauteuil, en passant par le café, cette sempiternelle navette lui pèse. Elle ne le mène nulle part. Depuis longtemps, il le sait, car tôt ou tard, dans la nuit, il faudra se remettre au lit et tenter de dormir, une fois de plus. Trop tôt, il faudra se réveiller pour affronter la vie, seul. Et le soir, comme les autres soirs, il rentrera chez lui, avec la même chose à l'esprit. Quand les instants de solitude s'étirent à l'infini, l'espoir est la seule lumière, la flamme vacillante d'une bougie que l'on s'efforce de protéger face à une tempête sans fin.
Merci Bertrand. Lorsqu'on me parle de la solitude, cela me fait souvent penser à la manière dont j'ai réussi à la vaincre en apprenant à apprécier la présence des gens. Aussi, il m'arrive de me remémorer à travers l'écriture le souvenir de personnes merveilleuses que j'ai eu la chance de rencontrer. C'est pourquoi j'avais envie de partager avec vous deux textes. Le premier est une strophe du poème « Les Anonymes » de Jacques Charpentreau, qui me rappelle ma démarche en tant qu'artiste. Les anonymes. Vous n'avez pas de nom, mes frères disparus. Vous n'avez plus de nom, marbre ou papier, le temps. A tout rongé de vous, ceux qui vous ont connus. Ceux qui vous ont aimés sont partis en portant. À leur tour le secret d'un regard, d'un visage, qui gardait en ses yeux le reflet d'autrefois. Et pourtant votre appel surgit du fond des âges et venu jusqu'à moi. Le deuxième texte est un extrait d'une lettre où je parle d'une fille que j'ai rencontrée il y a 15 ans. Je me souviens d'une fille que j'ai connue il y a près de 10 ans dans le service d'un hôpital où j'avais atterri. Elle s'appelait Clara, elle était espagnole. Je n'ai jamais su de quoi elle souffrait, mais la brève période qui a précédé son rapatriement m'a marqué. Elle a essayé de me charmer. Malheureusement, je n'avais pas trop l'esprit à ça à l'époque. Elle n'a pas semblé m'en vouloir, mais elle a posé avec sagesse et un accent charmant mon problème en ces termes. Tu joues de la guitare, tu connais des poèmes, tu danses ta salsa. Quel besoin as-tu de te gâcher la vie ? Une scène dans la salle commune du service a eu lieu par la suite. Je faisais un jeu de cartes avec elle et d'autres femmes plus âgées. Un des patients est alors entré dans la pièce. Il a allumé la radio et monté le son, puis s'est installé à la fenêtre pour fumer, sans plus de considération pour nous. Nous avons essayé de lui parler, mais il s'en moquait. Clara pardon, a alors dit qu'elle allait se plaindre aux infirmiers. Il a alors crié « Si tu fais ça, je te casse le nez !» Envahi de colère, j'ai eu envie de le frapper moi-même. Pas Clara. Quelques minutes plus tard, elle discutait calmement avec lui et il avouait enfin les angoisses qui le rendaient si agressif. Je me sentais toujours trop mal pour être réellement séduit. Mais face à cette réaction, je n'ai pas pu m'empêcher de songer. Dire qu'une fille pareille se sent attirée par moi. J'aime souvent à me dire que depuis tout ce temps, je suis devenu plus digne d'elle. Je suis la main prenant enfin la main tendue d'une fille qui ne serre jamais les poings.
Merci Martin. Et pour finir, une autre vision de la solitude par Jean-Louis Fournier, tirée de son recueil « Je ne suis pas seul » à être seul. Pour mon enquête sur la solitude, je voulais rencontrer un ermite. J'ai été en chercher dans le désert. J'ai marché des jours, j'ai marché des nuits. Enfin, j'en ai aperçu un, très loin. Il a dû me voir. Il a fait des signes avec les bras. Il devait me faire signe d'approcher. J'ai marché longtemps à sa rencontre. Longtemps. Quand j'étais à sa portée, il m'a foutu un énorme coup de poing dans la gueule. Je me suis évanoui. Il voulait vraiment être seul.
Et maintenant, nous allons écouter un mix de chansons sur différents thèmes. Il y a donc la poésie, la solitude et le goût de la cuisine. Ce mix a été réalisé par Morgane, Sacha, Charlie et moi-même. Je vous souhaite une bonne écoute.
Broken glass everywhere. People dressing on the stage, you know they just don't care. I can't take the scrap, can't take the noise. Got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, brothers in the back. Junkies in the alley with a baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far. Cause a man with a torture repossessed my car. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head.
Dans un petit plat à papier, tire du sang de lézard, t'as pas le papier à coudre.
Et un peu de sucre en poudre.
Je continue d'écrire des poésies.
Lettre à la République, à tous ces racistes, à la tolérance hypocrite, qui ont bâti leur nation sur le sang, maintenant ces riches ont d'honneur de leçons. Pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre. C'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Et maintenant, vous devez assumer. L'odeur du sang vous poursuit, même si vous vous parfumez. Nous, les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivé à son départ.
Thank you. où dans les premières soirées ça danse déjà le break. Je viens de là où nos premiers rendez-vous se passent autour d'un grec.
Vous êtes toujours sur Jet FM et nous venons d'écouter un mix musical. Vous avez pu y entendre 8 morceaux. Je vais tous vous les citer, par ordre chronologique. L'Eurojazz, Der and Insane Earth, Genesis Man, Le Pudding à l'arsenic, Chaton Poésie, Kerry James, Lettre à la République, Indila, SOS, Encore Malade, Je viens de là, Tears for Fears, Mad World, Remix, Soprano, à nos héros du quotidien. Voilà, merci d'avoir écouté. Je donne désormais maintenant la parole à Charlie.
Il y a eu aussi une interview de Caroline Texier, coach en orientation scolaire et professionnelle, réalisée par Florence, où elle s'est interrogée sur son parcours. Vous pouvez retrouver cette interview en podcast sur gtm.fr.
Et nous vous remercions tous pour votre écoute. Cette émission touche à sa fin.
Et donc, pour nous aussi, ça se termine à l'issue de 4 jours d'atelier chez JetFM. Est-ce que tous un par un, donc on va y aller un par un, du coup, comme je disais, est-ce que vous avez un mot de la fin à dire et puis un petit au revoir, quoi?
Merci en tout cas à toute l'équipe de JetFM de nous avoir accueillis.
Merci également, oui, pour cette expérience. J'étais très content de revenir ici pour une nouvelle émission et j'espère que ça va être conduit l'an prochain pour peut-être venir une troisième fois.
Alors, je voudrais également remercier l'équipe de JetFM pour cette expérience inoubliable. J'espère à bientôt.
Je remercie ces 4 jours à JetFM de m'avoir accueilli. J'ai bien aimé cette formation. J'ai vraiment bien aimé. J'ai découvert plus amplement un peu plus le métier de la radio. Et j'espère vraiment, si je peux être bénévole ou avoir l'opportunité de d'autres formations. Enfin voilà, c'est vraiment. La radio est vraiment un média qui me plaît. Voilà, donc merci pour ces jours de. Donc merci pour ces 4 jours de formation et merci à tout ce petit groupe qui était là d'être en harmonie tous ensemble. Sacha.
Alors moi du coup, j'ai bien aimé ce stage en fait, ça a été très formateur pour moi et j'ai bien aimé aussi le groupe qu'on était, on est tous bien dynamiques et puis l'équipe de Jet FM aussi, voilà. Donc je vous remercie, au revoir, c'était Laurent.
Moi, je voulais remercier Jet FM pour ces 4 jours qui ont été une expérience très enrichissante et tout particulièrement Alexandra pour son accompagnement, son énergie. Je pense qu'on a tous passé une superbe semaine et je vous remercie aussi tous parce que c'est vrai que ça fait du bien de voir un groupe ouvert et engagé sur certaines causes, sur le social, c'est rare, ça redonne un peu foi en l'humanité, donc merci à tous.
Bon, et puis de mon côté, je vais remercier tout le monde aussi, puis je vais rejoindre un peu ce que tout le monde a dit, j'espère que ce ne sera pas juste un au revoir,
Merci pour tout le monde. Je n'aime pas le mot au revoir. Par contre, je vais chanter une chanson, mais ça sera en arabe. على عنب يا ولا بلد الحلوين بلد الهوى شفت الحلوين يا ولا رايحين جايين يا ولا شغلوا لي بالي وانا قلبي خالي شغلوا لي بالي وانا قلبي خالي.
Merci Gagnard.
Merci Gagnard.
Merci Gagnard.
Est-ce que tu veux dire brièvement de quoi parle cette chanson?
Oui, ça c'est pour les personnes seules qui sont en solitude, isolées aussi. Je pense toujours à eux. Bisous à tout le monde et pour les personnes seules aussi.
Merci Gagnard.
Merci
Gagnard pour cette totale impro. Et puis bah, Laurent, tu avais un dernier mot parce qu'il vous reste une dernière chose pour
cette
émission.
Alors, oui, alors maintenant nous allons écouter un bêtisier pour cette fin de belle émission. Voilà, bon après-midi à tous.
Essaie de parler bien plutôt que jeune.
T'as cru que j'étais un poète ou quoi?
Tu ne sais pas parler bien?
Mais si.
Si, parler littéraire.
Bonjour, nous voici dans l'émission quotidienne L'Escalier Radio. Nous allons recevoir ici actuellement notre invité, Martin.
Bonjour et merci de me recevoir dans cet escalier.
L'escalier est un endroit à la fois réel et imaginaire, d'où on monte et d'où on descend, plus ou moins rapidement, plus ou moins doucement, plus ou moins abruptement. Pouvez-vous nous en dire plus, Martin ?
Écoutez, j'ai toujours aimé les escaliers. Quand j'étais petit, j'arrêtais pas de chanter « Ma maison est en carton, les escaliers sont en papier ». Alors je me suis mis à descendre les escaliers et à les monter tout le temps. Et la passion me prenant, peu à peu, je me suis même mis à trafiquer les ascenseurs pour que les gens soient obligés de prendre les escaliers, ce qui donne du sens à leur vie.
Retrouvez l'ensemble des podcasts du Sonolab sur notre site au www.sonolab.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les ondes le mercredi et le dimanche à 11h sur Jet FM 91.2.